9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, quelle retraite? C'était l'un des projets les plus ambitieux du candidat Macron. C'est la réforme la plus périlleuse de son quinquennat. À la veille des grèves de jeudi, j'ai invité l'économiste Antoine Bozio. C'est lui qui, à la fin 2016, a convaincu Emmanuel Macron de passer à un système universel, selon lui, plus juste, plus simple et plus avantageux pour les petits salaires. Mais le gouvernement suit-il sa feuille de route? Demain, Soulages, Pierre Soulages, le peintre du noir et de la lumière devenu l'artiste français vivant le plus célèbre, aura pour ses 100 ans les honneurs du Salon Carré du Louvre, où seront rassemblées une vingtaine de ses toiles venues du monde entier. Le commissaire de l'exposition Soulages au Louvre, Alfred Pacman, viendra nous parler de l'œuvre inclassable et de l'homme centenaire vif et original, toujours animé de la passion de peindre. Au sommaire également, le Venezuela qui agonise en silence, famine, exode et violence. Situation aujourd'hui sans espoir, nous dit Laurence Debray qui vient de réaliser un documentaire sur les années de Chavez et Maduro. Et puis la comédienne Marina Hans qui revient sur les planches de la Comédie française et sur son cheval pour un nouveau concours de saut d'obstacle, le Longines Masters de Paris.
Europe 1, c'est arrivé demain.
En octobre 2008, paraît aux éditions de la rue d'Ulm pour un nouveau système de retraite des comptes individuels de cotisation financés par répartition. C'est un petit livre de 90 pages signé par un jeune chercheur en économie, Antoine Bozio, et son directeur de thèse, Thomas Piketty, qui définit exactement la réforme aujourd'hui en débat et pour cause. 8 ans plus tard, en 2016, c'est le même Antoine Bozio qui est allé plaider devant le candidat Emmanuel Macron et qui l'a convaincu des bienfaits d'un système ainsi présenté pendant la campagne le 2 mars 2017.
Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerai pas de changer l'indemnisation des retraités. Mais nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite.
Bonjour Antoine Bozio.
Bonjour.
Aujourd'hui directeur de l'Institut des politiques publiques. On va rester d'abord sur le plan des principes. Pourquoi un système universel par points serait par principe plus juste, plus équitable ?
Alors, le fait qu'il soit par point ou pas par point, c'est pas tellement
oui,
essentiel.
Vous étiez plutôt pour les comptes notionnels.
Qu'on avait proposé à l'origine dans le livre, justement, en 2008, c'était plutôt un système en euros, des droits en euros soient accumulés. Mais le principe de base qui avait été mis en avant, c'est le fait qu'on a aujourd'hui un système morcelé avec des règles différentes. Et ces règles différentes, en fait, on pourrait penser qu'elles s'adaptent de façon très idéale à chacune des situations, alors qu'en réalité, finalement, elles ont des effets mal compris, souvent pervers, qui vont à l'encontre de ce qu'était au départ l'idée d'origine derrière la mise en place de ce système.
Aujourd'hui, deux personnes qui ont la même carrière et les mêmes revenus, ils peuvent avoir des droits différents parce qu'ils ne sont pas affiliés à la même caisse de retraite ?
Simplement parce qu'ils ne l'ont pas fait dans le même ordre. Si vous avez commencé dans la même carrière avec les mêmes revenus, mais vous avez d'abord commencé dans le secteur privé, dans le secteur public, ouais. Ou l'inverse, exactement les mêmes postes, mais simplement pas la même date dans votre carrière, vous n'aurez pas la même retraite. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut donner comme ça, où finalement, alors même qu'on pourrait penser, par exemple, la règle des 25 meilleures années, c'est un bon exemple de règle qu'on pense intuitivement en disant voilà, ça protège, ça ne nous prend que les bonnes années. Le problème, c'est qu'en réalité, ce qu'elle fait, cette règle-là, c'est qu'elle va donner, c'est les dernières années qui vont avoir plus de poids. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut que vos dernières années aient le plus de poids dans votre carrière. Si vous avez une fin de carrière difficile, avec une même type finalement de cotisation que vous avez pu faire par rapport à une fin de carrière plus dynamique, vous n'allez pas avoir du tout la même retraite, alors même que vous aurez fait le même effort.
Là, je ne vous suis pas, parce que la moyenne des salaires de toute une vie, elle est forcément inférieure aux 25 meilleures années.
Exactement. Ça, donc, c'est la première réponse intuitive. Bah simplement, oui. Ce qu'il faut penser, c'est que si on faisait que ça pour tout le monde, ça ferait baisser le niveau des retraites. Oui. La masse des retraites baisserait. Mais ce qu'on fait dans la réforme, c'est qu'on dit on fera la masse totale, constante. Donc ce qui va compter, c'est pas qui, en fait, c'est qui a relativement des 25 meilleures années meilleures que les 45. Donc par exemple, si on a été au SMIC toute sa vie, c'est 45 années de SMIC. Les 25 meilleures, c'est toujours le SMIC. Mais si on est passé du SMIC à 8 fois le SMIC et on finit à des très hauts salaires, en fait, ces 25 meilleures années, elles vont être bien plus importantes que les 45 meilleures. Et donc, qui se retrouve finalement gagnant en moyenne dans le système, c'est plutôt les plus hauts salaires. Et qui se retrouve plutôt perdant, c'est plutôt les gens qui ont des salaires, des carrières plutôt peu dynamiques et plates.
Donc, vous affirmez que le système universel avantage les petits revenus. Antoine Bozio, oui.
C'est très clair que prendre en compte toute la carrière, en la revalorisant correctement, c'est-à-dire par la croissance des salaires, va avantager les 50% des plus bas salaires plutôt que les 50% des plus hauts.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait des interruptions de carrière aujourd'hui? Elles ont peu d'impact sur le montant des retraites à cause du calcul sur les meilleures années.
Ben non, justement, elles ont des impacts, mais elles ont des impacts, pourquoi? Parce qu'on donne des trimestres qu'on appelle des trimestres gratuits, des trimestres pour maladie, pour chômage. Dans le nouveau système, on va faire la même chose. On va donner des points gratuits pour chômage ou maladie.
Et pour les femmes qui deviennent mères aussi.
Et pour les femmes qui ont des enfants. Mais le point important, c'est que dans le système actuel, vous pouvez quand même être perdant si vous avez une période de chômage. Pourquoi ? Parce qu'une période de chômage, vous n'avez pas de salaire. On va aller vous chercher vos salaires plus anciens. Donc vos 25 meilleures années, ils vont quand même baisser suite à une période de chômage.
Chacun a ses points donc, et les accumule tout au long de la carrière, mais avec des mécanismes de solidarité que vous venez d'exprimer. Mais quelles garanties ont les salariés du niveau de leur retraite s'ils ne connaissent pas la valeur du point, Antoine Bozio?
Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est quelque chose, à mon avis, en discussion sur lequel, dans la proposition du gouvernement, je ne suis pas tout à fait complètement d'accord. C'est-à-dire que l'idée d'avoir au départ dans notre proposition des droits en euros, c'était pour bien rendre compte que les gens puissent suivre au fil du temps l'accumulation de leurs droits à la retraite et puissent savoir pratiquement en temps réel quel était le montant de droits acquis en retraite. Le fait de les faire en points, ça veut dire qu'il y a une valeur du point. Et donc il faut une règle qui soit perçue comme très claire, dans laquelle on ait confiance que ces droits, ces points ne sont jamais dévalorisés.
Édouard Philippe a dit mercredi... quelque chose qui n'a pas été beaucoup relevé, que le point de retraite sera indexé sur le niveau des salaires.
Et ça, je pense que c'est très important. Et ça doit être placé non pas dans quelque chose qui puisse être négocié chaque année et revu à la baisse, mais fondamentalement dans la loi, en disant on ne touchera pas à la valeur du point.
Oui, mais s'il y a crise et que les salaires n'augmentent plus, ou qu'ils augmentent moins vite que
l'inflation. Si les salaires augmentent moins vite, ça veut dire que les droits à la retraite doivent aussi augmenter moins vite. L'idée de la répartition, ce n'est pas de donner plus aux retraités qu'aux actifs, c'est un partage du gâteau qui est créé. Et d'une certaine façon, l'objectif, c'est de maintenir le niveau de vie relatif des retraités avec les actifs.
Oui.
Si on a moins de croissance, ce qui est tout à fait envisageable, eh ben, ça veut dire que nos retraites devront aussi évoluer de la même façon que les salaires des actifs.
Antoine Bozio, l'un des inventeurs, non pas de la réforme, mais d'un nouveau système de retraite. On marque une pause avant d'aborder un point clé. Quand est-ce qu'on arrête de travailler ?
Europe 1. Chaque dimanche de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen. C'est arrivé demain la suite, c'est sur Europe 1.
Avec l'économiste Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques, inspirateur il y a plus de 10 ans d'un système universel de retraite à point, enfin... à point ou autre chose, ou en euros, en tout cas qui a servi de modèle à ce que veut instaurer le gouvernement. Qu'en est-il ? Quand serait-il de l'âge de départ, Antoine Bozio ? Est-il exact de prétendre que dans ce nouveau système, chacun part quand il veut ?
Ah ben, chacun, à partir d'un âge d'ouverture des droits, donc là, ce qui avait été annoncé, c'était que de maintenir cet âge d'ouverture de droits, comme actuellement, à 62 ans, va pouvoir décider en fonction de ses droits acquis comment il part en retraite. Mais je crois que le point plus important, c'est que d'une certaine façon, dans ce nouveau système, on peut penser le départ en retraite non pas comme un âge couperet, on arrête de travailler, on passe de temps plein à zéro, mais comme quelque chose qui peut être conçu de façon beaucoup plus progressive. On peut liquider que la moitié de ses points, donc passer à temps partiel, puis travailler pendant 2-3 ans à temps partiel et enfin liquider complètement sa retraite. C'est-à-dire que il n'y a plus forcément besoin d'une norme de référence stricte pour tous. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le gouvernement, dans son projet, lui, a au contraire voulu mettre en place un âge pivot pour redonner une norme, une référence qui soit unique pour tous, qui est un petit peu à l'encontre de ce qui était au départ dans le projet, de quelque chose qui était très flexible en termes d'âge de départ.
Oui, parce que travailler plus longtemps, ce n'était pas dans le projet présidentiel. C'est revenu après, dans les débats.
Mais en tout cas, ce qui n'était pas dans le projet présidentiel, c'était de dire qu'il fallait faire, c'était même l'opposition du candidat Emmanuel Macron à celui de François Fillon, qui disait non, il faudra faire une augmentation de l'âge de départ en retraite. Emmanuel Macron avait dit non, gardons le système, en tout cas les âges de départ tels qu'ils sont prévus actuellement, mais transformons la façon dont le système fonctionne.
Alors, comment à présent maintenir l'équilibre du système en tenant compte de l'allongement de l'espérance de vie. On revient à la question précédente, travailler plus longtemps.
Donc dans le système actuel, il est prévu de travailler plus longtemps. Comment ? Par l'augmentation de la durée d'assurance, par le fait que en fait, les conditions pour obtenir un taux plein augmentent. Dans le nouveau système, on aurait les mêmes caractéristiques sous-jacentes. Pourquoi ? Parce que si on prend la même masse de pension, finalement, si on veut obtenir le même niveau de pension, c'est bien ces mêmes caractéristiques qui sont là. La question, c'est dans le nouveau système, on va simplement prendre telle qu'est observée l'espérance de vie en retraite au fil des générations pour donner à chacun l'information sur « voilà, au vu de ce qu'on sait sur le temps que chaque génération va passer en retraite, voici quelles sont les conditions qui nous permettent de garantir l'équilibre du système de long terme, quelles que soient les évolutions économiques. » Ça, je pense que c'est très très fort pour dire, au lieu de dire chaque année « regardez, le système est en déficit, c'est la catastrophe », ce qui amoindrit considérablement la confiance qu'on peut avoir dans le système, on dit ben voilà ce que le système peut vous garantir et ce système-là, il est garanti.
Ça veut dire que chacun serait libre, enfin pour autant qu'on puisse être libre de conserver un emploi, serait libre de travailler plus longtemps pour redresser le niveau de sa retraite.
C'est-à-dire que chacun va obtenir des informations tout au long de sa carrière sur ses droits à la retraite, sachant que ceux-ci ne peuvent jamais baisser. Donc chaque fois que vous accumulez des droits, ces droits augmentent. Et donc vous pouvez savoir assez tôt, finalement, qu'est-ce que vous obtiendrez comme droit à la retraite si vous partez à 62 ans, à 63 ans, à 64 ans. Et comment vous voulez programmer finalement votre fin de carrière ? Est-ce que vous voulez travailler plus longtemps mais à temps partiel ? Est-ce que vous voulez vous arrêter le plus tôt possible ? Dans quelles conditions ? Et c'est ça qui va finalement... C'est jamais à veut dire que la liberté... On est toujours une forme de contrainte. Il nous faut bien travailler pour obtenir des revenus. Mais ça veut quand même dire qu'on n'est pas soumis, finalement, à une sorte de norme unique de savoir quand on part en retraite.
Il y aurait une sorte d'ajustement budgétaire automatique, finalement, par les décisions de chaque acteur.
Voilà, parce qu'on offre finalement un menu aux assurés en disant voilà ce qui est possible d'offrir au maximum dans un système en répartition.
Sauf que l'espérance de vie, Antoine Bozio, elle n'est pas la même selon les métiers, et que le système actuel, avec tous ses défauts, il entretient des situations différenciées qui sont parfois justifiées compte tenu de la pénibilité ou de la pratique ou de la particularité de certains métiers.
Donc c'est pas du tout incompatible avec le nouveau système, le fait de prendre en compte la pénibilité différentielle dans les différents systèmes. D'une certaine façon, au contraire, on pourrait se dire que la pénibilité, il en existe dans tout type de métier. Et donc, il ne suffit pas de faire des catégories par des grandes catégories socio-professionnelles. Il faut se dire que, par exemple, un déménageur dans le secteur privé, ça peut être un métier très pénible. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment très peu de prise en compte de cette pénibilité. Donc, avoir en place un système qui prend en compte les situations de pénibilité, mais pour l'ensemble du pays et pas simplement pour quelques catégories, c'est au contraire dans l'esprit d'avoir un système qui finalement prend mieux en compte ces situations-là.
L'un des cas les plus épineux est celui des enseignants dont les retraites sont calculées aujourd'hui sur le traitement des 6 derniers mois. Même en intégrant les primes dans le calcul, le compte n'y serait pas. Comment faire ?
Alors ça, je pense que c'est un point très important. J'en le sais directement étant enseignant, donc je vois très bien de quoi il retourne. L'idée, pour bien comprendre, c'est qu'on a à peu près un peu moins d'un tiers de la rémunération des fonctionnaires qui sont sous forme de primes, qui donnent très peu de droits à retraite. Et donc le reste, ce sont du traitement. Et donc, pour autant, le taux de remplacement moyen dans la fonction publique fait, par rapport au secteur privé est très proche. Donc comment ça se fait ? Ça se fait que l'État utilisait la rémunération sous forme de primes, finalement, pour pouvoir réaligner le niveau des retraites dans le secteur public et privé. Mais il y a un gros problème, c'est que parmi la fonction publique, les enseignants ont peu de primes par rapport aux autres fonctionnaires.
Absolument.
Donc comment il faut faire ? Il faut faire en sorte que cet alignement de l'effort contributif et de droit à la retraite sur le traitement et les primes ne se fasse pas au détriment de ceux qui ont, par exemple, moins de primes. Donc la proposition que j'avais pu faire, c'est de dire il faut que dans le même temps et de façon très crédible, les salaires nets de ceux qui auront moins de droits à la retraite parce qu'ils ont beaucoup de primes augmentent. Et donc, si on les augmente 1 euro pour chaque euro, ça veut dire qu'il n'y a pas de perdant relatif.
Donc, ça suppose une augmentation massive des salaires des enseignants.
C'est une augmentation massive des salaires des enseignants, mais pas forcément un surcoût, parce qu'on va demander aux fonctionnaires qui ont beaucoup de primes de cotiser plus sur ces primes. En échange de plus de droits à la retraite.
Les professions libérales, indépendants, avocats, dont les cotisations vont passer de 14 à 28%, alors que leurs régimes sont plutôt bien gérés et bénéficiaires généralement.
Alors ça, c'est un point tout à fait discutable. On n'est pas du tout obligé, à mon sens, d'aligner totalement les taux de cotisation. Si ces professions avec des taux de cotisation plus faibles ont des retraites plus faibles et qu'ils assument, d'une certaine façon, on n'est pas obligé de forcer, en tout cas, un alignement immédiat. Ce n'était pas du tout dans notre idée. Bon, on n'est pas obligé là-dessus de...
La transition, en tout cas, s'annonce très compliquée. Qu'est-ce que vous suggériez, vous, de convertir d'un coup les trimestres cotisés en points ou en euros ?
Donc, ma suggestion initiale, c'était de faire une transformation des droits acquis dans le nouveau système, assez rapide, très rapide. Mais par contre, de dire que tout ce qui est de la convergence, finalement, des efforts contributifs, des taux de cotisation sur les primes ou le traitement, ça peut prendre, au contraire, du temps. Parce qu'on ne va pas modifier, finalement, ces équilibres économiques en quelques années. Ça peut prendre 15 à 20 ans. Mais ce n'est pas du tout la même chose que dire maintenant on a les mêmes règles et les mêmes règles pour tous qui fonctionnent dans le système.
Bon, qu'est-ce qui sépare aujourd'hui le projet que vous aviez imaginé de la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement, Antoine Bozio ?
Bah, au départ, la réforme qu'on avait imaginée, c'était une réforme qui était d'inspiration, finalement, qu'on voyait très sociale, j'ose le mot. C'est-à-dire que plus d'égalité, un système universel, retrouver ce qui était même ce que je pense être l'idée originelle du Conseil national de la Résistance. Le régime général qui couvre la sécurité sociale, l'ensemble des personnes dans ce pays, c'est quelque chose de... Enfin, c'est l'égalité, finalement, de traitement. Ce qui sépare un petit peu ce qui a été fait pour l'instant, en tout cas tel qu'il a été communiqué par le gouvernement, c'est que le gouvernement a eu à cœur de dire « mais quand même, on va travailler plus ». L'âge pivot passe à 64. Donc, le message qui a été retenu dans la population, c'est de dire « mais en fait, c'est une réforme pour réduire les droits ». C'est une réforme qui va et qui n'est pas finalement tous les aspects bénéfiques de la réforme ont été mis un petit peu en arrière-plan, alors que, à mon sens, c'était ça l'objectif principal de la réforme.
Merci beaucoup Antoine Bozio d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous dirigez l'Institut des politiques publiques.
Europe 1.
Dans un instant, un sujet, un pays qui faisait la une des journaux il y a 6 mois et qui semble ne plus intéresser personne, le Venezuela, pourtant s'enfonce dans le chaos, la violence et les pénuries de toutes sortes. Laurence Debray avec nous dans un instant.
Europe 1. Le dimanche sur Europe 1 jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain. C'est avec vous Patrick Cohen.
C'est un immense pays qui crève de faim, qui n'arrive plus à se soigner, qui manque de tout, y compris de carburant, d'essence, alors qu'il est assis sur un tas de pétrole. C'est le Venezuela qui agonise en silence, où la crise politique se poursuit en silence, sans éclat, en disparaissant de l'actualité. Bonjour Laurence Debray.
Bonjour.
Le Venezuela, c'est votre patrie de cœur. Vous y avez grandi, vous venez d'y tourner un documentaire qu'on verra dans quelques jours sur Arte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays ?
C'est un cas unique dans l'histoire. Il y a deux chefs d'État. L'un qui est maintenant, on peut le reconnaître comme dictateur, et l'autre qui
Maduro.
Est Nicolas Maduro, et l'autre Juan Guaido, qui légitimement, en tout cas constitutionnellement, devrait prendre le pouvoir, mais n'y arrive pas, puisqu'il n'a pas les forces armées de son côté. Et il ne peut faire que des manifestations, et des manifestations ne font pas tomber un régime.
Il est reconnu par une cinquantaine de pays à travers le monde. La situation de la population, la vie quotidienne ?
La population est prise en otage. Maintenant, il n'y a plus de médicaments, plus de nourriture facilement accessible. Tout est dollarisé en plus, avec une inflation qui est unique au monde, c'est 10 000% pour l'année. On parle maintenant de 94% de la population en état de pauvreté, alors que c'était le pays le plus riche d'Amérique latine. Et en 1950, c'était le 4e PIB par habitant du monde.
Un niveau de violence sans précédent aussi.
Alors Caracas est vraiment la capitale la plus dangereuse du monde. Il y a un taux d'homicide quotidien inégalé. Il n'y a plus d'état de droit en fait. C'est-à-dire que tout peut arriver à n'importe qui, n'importe quand.
Avec des forces spéciales de la police qui sèment la terreur dans les quartiers pauvres et multiplient des exécutions, ce que les ONG appellent des exécutions extrajudiciaires.
On en compte 18 000 depuis 2016 au Venezuela.
Mais le Venezuela a réussi à se faire élire au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Une belle ironie, non ?
Il y a quelques semaines. Et donc celui qui incarnait il y a quelques mois l'espoir d'un renouveau démocratique, Juan Guaido, qui avait appelé au soulèvement contre Maduro. Guaido ne draine plus aujourd'hui que quelques milliers de manifestants à Caracas, c'était il y a 2 semaines.
Ouais,
lassitude.
Ouais. Mais écoutez, lassitude et puis aussi toute son équipe est emprisonnée ou partie en exil, donc une réelle difficulté à exercer un quelconque pouvoir. Donc ce n'est pas parce qu'il est reconnu par 50 pays qu'il peut effectivement exercer un pouvoir. Et la pression qu'il exerce dans la rue, mais au bout de mois et de mois de manifestations, les gens n'en peuvent plus. Il y a quand même beaucoup de répression, beaucoup d'arrestations, donc il le paye cher. Et finalement, les gens sont plus préoccupés par survivre que pour lutter pour le rétablissement de la démocratie. Donc on attend que les sanctions américaines et européennes jouent un espèce de rôle de chantage, mais le régime résiste.
Alors pour comprendre ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, il faut voir votre film, Laurence Debray, flashback très instructif sur les années Chavez. Chavez qui a fait profiter les plus pauvres de la hausse du pétrole, qui est devenu le héros des bidonvilles, mais qui a aussi fait dérailler l'économie du pays. Tout cela est connu. Il y a une autre vedette dans votre film, c'est le pétrole. La manne pétrolière qui a profondément imprégné les mentalités du pays.
Oui, c'est-à-dire que c'est un pays plus pétrolier finalement que latino-américain et ça imprègne une mentalité particulière. Dans un pays où on ne paye pas d'impôts, par exemple, on n'a pas le même rapport à l'État et à son gouvernement. C'est un pays finalement qui est 90% dépendant du cours du pétrole. C'est un des membres fondateurs de l'OPEP. Donc c'est une mentalité particulière qui a permis aussi un populisme de naître très facilement, parce qu'il y avait plus d'attachement à l'économie qu'à un pouvoir politique démocratique. Le Venezuela était en démocratie depuis 1958, quand même.
Est-ce que l'une des clés de la révolution chaviste, ce n'est pas Cuba? L'un de vos intervenants dans le film, Laurence Debray, parle d'une soumission totale absolument inédite pour un grand pays à l'égard d'un plus petit.
Oui, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une invasion d'une petite île qui ne produit que de la canne à sucre et qui a un PIB infime et qui a envahi politiquement et physiquement avec ses 40 000 agents sur le territoire vénézuélien. Donc c'est vrai que c'est un cas unique dans l'histoire. À travers ces programmes sociaux lancés par Chavez...
Oui, ils ont exporté beaucoup de médecins, des soins, de l'assistance.
Des professeurs, de l'assistance et aussi des agents politiques. Et Maduro, on dit qu'il a été vraiment choisi par Raúl Castro. Il est soumis au pouvoir cubain.
Et aujourd'hui, Cuba...
En échange, Cuba obtient des barils de pétrole. Même aujourd'hui, alors que le pays crève de faim, le gouvernement vénézuélien continue à envoyer ses livraisons de barils à Cuba.
La situation est bloquée aujourd'hui ?
Je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue heureuse à court terme.
Le désespoir vénézuélien peut se prolonger encore longtemps ?
Oui, il y a 5 millions d'exilés vénézuéliens qui déstabilisent toute la région latino-américaine. 5 millions, c'est plus que les migrations syriennes. On parle de 25% de la population qui aura fui le Venezuela à la fin 2020, selon l'ONU. Donc c'est un pays qui se vide et c'est un pays aujourd'hui où il n'y a plus d'économie, où il n'y a plus d'État et où il y a une espèce de kleptocratie qui reste à la tête et qui profite de trafic de drogue, de mafia, de beaucoup de trafic d'or aussi. L'Amazonie en prend un coup parce qu'elle a été en partie déforestée pour tous ces trafics. Et je ne vois pas d'issue à moins qu'il y ait une véritable intervention internationale ou un réveil international quant au sort du Venezuela.
L'Amazonie est aussi une partie des zones de prospection pétrolière, le lac de Maracaibo notamment, qui est victime d'une marée noire permanente puisque les installations pétrolières ne sont plus entretenues et le pétrole se répand.
Exactement, il y a des dégâts environnementaux qui sont terribles.
Venezuela, l'ombre de Chavez, à voir mardi sur Arte à 23h50, mais en fait, c'est quand vous voulez sur arte.tv. Et puis je rappelle aussi votre livre, Laurence Debray, fille de révolutionnaire, qui est ressorti il y a quelques mois en poche. C'est toujours vivement recommandé. Merci beaucoup, Laurence Debray.
Merci à vous.
Europe 1. Pierre Soulages fêtera ses 100 ans le 24 décembre et le Louvre va fêter Soulages dans 10 jours. Alfred Paquement, le commissaire de cette exposition-événement, va nous éclairer sur ce maître du clair-obscur.
Europe 1. De 9h à 10h le dimanche sur Europe 1, vous écoutez C'est arrivé demain avec vous Patrick Cohen.
Événement dans 10 jours au Louvre, dans le prestigieux salon carré où sont décrochés les Giotto, Fra Angelico et autres maîtres de la peinture italienne pour laisser place jusqu'en mars un peintre vivant, ce que le Louvre n'avait fait que pour Chagall et Picasso. Pierre Soulages, le peintre du noir et de la lumière, artiste majeur de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe, puisqu'après de 100 ans, Soulages aime encore peindre dans son atelier de Sète. Bonjour Alfred Pacman.
Bonjour.
Président du magnifique musée Soulages de Rodez et commissaire de cette exposition Soulages au Louvre. Ce sera quoi? Un hommage? Une rétrospective?
Ce sera un hommage, ce sera une rétrospective, mais une rétrospective restreinte
oui.
en nombre d'œuvres.
Une vingtaine de toiles.
Une vingtaine d'œuvres, et en une vingtaine d'œuvres, on fera le parcours de 1946 à 2019 des créations de Pierre Soulages.
Avec l'imprimatur de Soulages lui-même, il paraît qu'il a refusé qu'on déplace une de ses toiles exposée à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg.
Oui, enfin, Pierre Soulages est très présent quand on organise une exposition de ses œuvres. Et on a beaucoup parlé, on a fait une maquette, on a regardé comment l'exposition allait se présenter. Et en effet, il a participé au choix des œuvres.
Une exposition de moindre ampleur qu'il y a 10 ans au Centre Pompidou qui avait rassemblé une centaine de toiles. Mais là, c'est le oui. Louvre, le Salon Carré.
Ce n'était pas le même objet. Ouais. Là, il y avait eu cette rétrospective très importante, en effet, il y a 10 ans. Et là, c'est une façon de lui rendre hommage et de rendre hommage aussi au développement de son œuvre.
Alors maintenant, Alfred Pacman, il faut parler de l'œuvre de Soulages. Il faut en parler à ceux qui n'auraient jamais approché une de ses toiles, ses contrastes, ses reliefs, ses jeux de lumière sur la matière noire. Il faut leur dire qu'ils vont approcher un objet, une œuvre qui n'a de compte à rendre à rien ni à personne.
Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est une œuvre, ce ne sont pas des images. Sont des matières, sont des lumières. Soulages dit toujours qu'il peint la lumière et qu'il peint la lumière du noir. Donc c'est la dominante est de couleur noire, mais elle n'est pas exclusive dans son œuvre. Et il y a une relation qui s'établit entre le spectateur et l'œuvre qui est une relation en effet assez particulière puisqu'il ne s'agit pas de détecter un sujet, mais il s'agit de rentrer dans une lumière, dans une matière, dans un geste, et de l'appréhender. Et en général, le public est quand même très sensible oui. à sa démarche.
La toile n'existe que par le regard, là où il se trouve, dit Pierre Soulages. Elle n'existe que dans l'instant du regard du spectateur.
Oui, ce qui est particulièrement vrai pour les œuvres qu'il fait maintenant depuis 40 ans, oui. qu'il a appelées Outre-Noir, dans la mesure où la façon dont il inscrit la matière sur la toile, sachant qu'il n'utilise qu'un seul pigment, c'est-à-dire que ça devrait être monochrome, et ça n'est pas monochrome, parce que la façon dont il inscrit ce pigment sur la toile fait qu'il y a des stries, il y a des parties plates, et la façon dont vous déplacez par rapport à l'œuvre va transformer, et bien sûr la lumière ambiante va transformer votre manière de l'appréhender.
C'est une peinture qui ne renvoie qu'à elle-même, qui n'est influencée par rien, ni par les humeurs du peintre, ni par l'environnement dans lequel il travaille, c'est-à-dire au bord de la mer, à Sète.
Oui, c'est-à-dire que son atelier est en effet à Sète, dans sa maison, mais il ne regarde pas la mer, il tourne le dos à la mer, pour ne pas, je dirais, mélanger la somptuosité d'un paysage et puis la concentration sur l'objet peinture. Mais d'un autre côté, c'est une peinture qui doit aussi, comme toute peinture, à beaucoup de choses. Et pour lui, ça a été l'abbaye de Conques, qui est tout près de Rodez, où il est né. Ça a été la découverte de menhirs gravés au musée Fenaille, qui est un musée à Rodez. Ça a été la découverte de la grotte d'Altamira dans une reproduction quand il était très jeune, etc. etc. C'est-à-dire que l'art n'est jamais de rien.
Bien sûr. Mais le noir, même le noir, est récusé par Soulages comme valeur symbolique. Soulages dit que le noir ne dit rien en lui-même, qu'il est le symbole de tout et de son contraire.
Tout à fait. Enfin, en tout cas, toutes les symboliques qui ont pu être apportées au noir, je ne sais pas, couleur du deuil. D'ailleurs, le deuil, c'est aussi blanc, donc tout ça est très ambigu. N'est pas du tout son propos. Par contre, il dit le noir, c'est la couleur des origines. Et il cite toujours ce fait tout à fait étonnant que dans les grottes de la préhistoire, l'homme des cavernes qui dessine sur les murs, dessine avec du noir, avec du charbon de bois, alors qu'il est dans le noir.
Si on a du mal à le définir, si on a du mal aussi à décrire l'émerveillement et l'émotion provoquée par ces toiles, même si Christian Bobin le fait magnifiquement dans le hors-série du 1 Soulages au Louvre que je vous recommande vivement, il faut dire qu'il appartient à aucun courant, à aucune tradition picturale.
Non, il s'inscrit dans une époque, incontestablement, où la peinture non figurative, la peinture abstraite, a été très présente. Il a commencé à peindre dans les années d'après-guerre et il faisait partie de cette mouvance, mais il s'est inscrit tout à fait à part. C'est-à-dire qu'il n'est ni un peintre de la peinture abstraite, géométrique, systématique, construite, ni un peintre de la gestualité débordante et expressionniste. Il a inventé sa propre peinture et c'est ce qui fait sa force aussi.
Il est ailleurs. Et cet ailleurs a fait sa renommée. Il est devenu le peintre vivant le plus cher du monde. Une vente à 10 millions de dollars l'an dernier. Et encore 10 millions il y a quelques jours pour une toile de 1960 adjugée chez Tajan, Alfred Pacman. C'est normal, c'est raisonnable?
Oui, je pense qu'il y a l'art d'un côté, il y a le marché de l'autre. Alors les deux se rejoignent bien sûr. Ouais. Mais le marché de l'art peut rendre compte de l'importance d'un artiste. Et en l'occurrence, c'est le cas pour aujourd'hui pour Soulages, ce qui paraît quand même légitime par rapport à la place qu'il occupe dans l'histoire de l'art. En même temps, je crois que pour le public qui va venir voir cette exposition, ce n'est pas des zéros qu'il faut inscrire à côté des œuvres qu'il verra. Il va voir le parcours d'un peintre pendant plus de 70 ans, y compris cette année même où pratiquement 100 ans, il aura 100 ans dans quelques jours, il peint des grandes peintures qui sont exposées au Louvre, c'est ça qui compte.
Et il va surveiller l'accrochage. Les toiles seront accrochées ou suspendues aimé le faire dans d'autres expositions.
Au Salon Carré, on ne pouvait pas les suspendre.
Ah, c'est parce pas possible,
une verrière et puis c'est des plafonds historiques. Enfin bon, on ne pouvait pas les abîmer, donc on ne pouvait pas les suspendre. Donc on a choisi un accrochage mural, mais néanmoins avec un panneau central qui évoque la suspension de ces œuvres dans d'autres expositions.
Merci beaucoup Alfred Pacman. Soulages au Louvre à partir du 11 décembre. Soulages au Louvre dans le hors-série du 1 avec entre autres Christian Bobin et Alfred Pacman. Soulages au Louvre, le catalogue de l'exposition chez Gallimard. Et bien sûr, le musée Soulages qui a redonné vie à Rodez vaut le voyage, comme on disait autrefois ou comme on dit toujours dans le Michelin.
Europe 1.
Dans un instant, Marina Hans qui va revenir sur la scène de la Comédie Française et sur son cheval dans quelques jours en compétition.
Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 jusqu'à 10h le dimanche. Vous écoutez Cette Arrivée Demain. Vous êtes avec Patrick Cohen.
Bonjour Marina Hans.
Bonjour.
Double actualité, je le disais, on annonce votre retour à la Comédie Française comme pensionnaire à partir d'avril, maison que vous aviez quittée en 2007. Et puis votre retour en compétition, mais ça c'est devenu beaucoup plus fréquent. Vous participerez au Longines Masters de Paris à partir de jeudi à Paris-Norville-Pinte, grand concours international de saut d'obstacle.
Oui.
Par quoi vous voulez commencer? Par le travail ou pour le divertissement?
Oh non, pas par le travail. Commençons par le divertissement.
On
est dimanche.
C'est un divertissement pour vous?
C'est un divertissement. Oui, c'est même plus que ça. C'est une passion. C'est une magie, hein, les chevaux. Je crois que c'est... Enfin, moi, je suis née parisienne, voilà. J'ai toujours vécu à Paris. Et quand j'ai pu approcher les chevaux dans les jardins publics ou dans les spectacles équestres et tout ça, j'ai découvert un univers passionnant et sublime, quoi. Surtout, c'est d'une grande beauté.
Ça avait commencé, comme beaucoup d'enfants, par des
les jardins publics,
aux Tuileries.
Ouais, exactement. Tuileries, ouais. Luxembourg, les petits tours d'âne, puis de poney, puis de... Ouais.
Ils ont disparu des Tuileries, les poneys.
Mais ah bon, c'est vrai?
Je ferme la parenthèse. Les manèges sont partis.
Mais c'est vrai que ça a amené de la magie dans ma vie et ça continue à le faire.
Mais ça s'est interrompu pendant de longues années.
Oui, il fallait bien que je travaille. On ne peut pas vivre que de divertissement.
C'était vraiment ça? Et s'il n'y avait pas eu le tournage avec Guillaume Canet de Japloux?
Ça faisait un moment que j'y pensais, mais ça avait été une passion d'adolescente. C'était même un objectif de vie, hein, de faire ma vie dans les chevaux, de devenir cavalière professionnelle. Je rêvais de faire les Jeux Olympiques et tout ça. Donc quand j'ai échoué à ça, j'étais pas assez bonne. J'étais nulle. Non, j'étais pas nulle, j'étais moyenne, j'étais médiocre. Donc j'ai dû un peu arrêter d'y penser, me reconvertir. Enfin, c'était un rêve d'enfance qui s'écroulait, quoi. Donc maintenant, je monte en amateur et je fais des concours, des compétitions qui sont fantastiques. C'est une autre partie de ma passion.
Alors, éclairez-nous. CSI, une étoile.
Ouais, une étoile.
Concours de saut international quand même. Hein, c'est pas un CSO. CSI, une étoile. Donc, une étoile, Ça veut dire qu'on met la barre à quoi ? 1m10,
ça va jusqu'à 1m30.
Jusqu'à 1m30.
Voilà. Le 1 étoile, après le 2 étoiles jusqu'à 1m45. Et le 5 étoiles, 1m60.
1m60, c'est ce qui est sauté aux Jeux Olympiques.
Oui, ouais, c'est là, au Longines Masters, il y a vraiment les meilleurs cavaliers du monde qui seront là.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la compétition ? Parce qu'après tout, vous pourriez vous aller entraîner,
aller
vous promener en forêt et entraîner votre cheval à sauter des rivières.
Oui, mais je le fais aussi. Hein. Mais la compétition, c'est un enjeu ludique avec l'animal. C'est-à-dire que c'est quand même un sport qui naît d'un dialogue, d'un partenariat entre un animal et un humain. Et la compétition permet l'enjeu, la progression. Et le cheval comprend cette chose-là.
Il comprend qu'il est dans un état de compétition, qu'il est compétiteur et pas simplement en train de se promener avec
sa cavalière. Mais bien sûr, il comprend qu'il y a un public, il comprend qu'il y a des applaudissements, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien. Et les chevaux prennent part à ça comme ils ont fait dans les siècles. Ils prennent part à la vie de l'être humain avec beaucoup de joie quand évidemment ils sont bien traités. Ce qui est le cas plus que ça, même là c'est carrément, ils sont traités, c'est du grand luxe. Hein. Très très bien traités par les cavaliers.
Entraînement particulier pour les compétitions de la semaine prochaine, vous ferez trois parcours. Hein.
Ouais, bien sûr. Entraînement particulier.
C'est-à-dire quoi ? C'est tous les jeux. C'est tous les
Dès que je peux, je vais monter mon cheval. On fait des entraînements en indoor parce que c'est donc dans des halls fermés, chauffés, etc. Et moi, c'est la première fois que j'y participe, donc je suis surexcitée, quoi.
Bon.
Ouais.
Bon, donc, je répète, sans me tromper, le Longines Masters de Paris, vous montrez jeudi,
ça démarre jeudi, jusqu'au dimanche,
et en partenariat avec Europe 1, à Paris Nord-Ville Peinte, c'est évidemment du très beau spectacle et vraiment quelque chose qu'il faut aller voir. Un petit mot sur le travail, Marina Hans, quand même.
Si vous voulez, ben, d'accord.
travail le plus récent, la télévision avec la série Mytho qui est passée sur Arte et sur Netflix,
ouais.
Où vous incarniez une mère de famille.
Débordée.
Une sorte de mère parfaite, hein, qui voulait être parfaite
ouais.
Et qui inventer un gros mensonge, une grave maladie pour se faire remarquer.
Surtout qui a échoué à son schéma parfait, puisqu'elle devient transparente pour son mari, pour ses enfants, pour son boss, et ça part d'un petit mensonge, un peu une sorte de dérapage, et elle devient un énorme mensonge et un engrenage. Voilà.
La série est passée sur Arte avec succès,
ouais.
Et elle est visible bientôt ou tout de
là,
suite.
Là, maintenant, ça y est, sur Netflix.
Sur Netflix.
Ouais.
Le retour à la Comédie Française. Vous l'aviez quitté, la Comédie Française, en 2007. C'est pourquoi ? Pour faire du cinéma ?
Non, pas spécialement. J'étais rentrée à une période un peu chaotique là-bas, puisque au bout de 6 mois, le directeur avait été remercié. Il y avait un changement de direction.
Bozonnet.
Ouais, Marcel Bozonnet. Et moi, c'était... avec lui que j'avais discuté de mon entrée dans la troupe, etc. Donc j'étais un peu déstabilisée et j'avais préféré partir.
Et donc voilà. Au programme, à partir d'avril, il y aura beaucoup de choses.
À partir d'avril, moi je rentre et puis à partir de juin, je serai dans Partage de Midi de Claudel, voilà. Et puis dans Cyrano de Bergerac aussi.
Formidable. En Roxane ?
Ah non, je suis beaucoup trop vieille pour jouer Roxane.
Merci beaucoup Marina Hans. Les Longines Masters de Paris à Paris Nord-Ville Peinte avec Europe 1 à partir de jeudi prochain, où on pourra applaudir entre autres Marina Hans et beaucoup d'autres cavalières et cavaliers. Merci à vous.
Europe 1.
Merci de nous avoir suivis. Émission préparée par Julien Cottreau, réalisée par Guillaume Vasseau et Julien Blanc. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, 9h10. Dans quelques minutes, le grand rendez-vous. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Votre invité ce matin.
Adrien Quatennens de la France Insoumise, à la veille des grèves. Est-ce que son mouvement va réussir enfin le grand soir et lancer sa révolution culturelle ?
Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.